Alors bonjour.
Bonjour.
Donc c'est vrai que ce matin j'avais à cœur de vous parler des fêtes juives parce qu'en fait c'est un moyen de pouvoir nous approcher de Dieu et j'aimerais vous les faire découvrir et vous expliquer aussi un petit peu dans quelle saison on se trouve en ce moment par rapport aux fêtes juives et voir qu'est-ce que ça peut nous apporter par rapport à notre propre relation avec Dieu. Donc en ce moment on est dans la saison de l'automne. Et c'est vrai que pour nous, la saison de l'automne, c'est une saison où on sait que la sève des arbres redescend dans leurs racines en vue de l'hiver. Et puis la nature se pare de couleurs merveilleuses, mais c'est juste avant que les feuilles ne tombent. Et c'est vraiment une saison pour revenir vers les racines. Et en fait, si on lit la Bible, et notamment le chapitre 23 du Lévitique, on voit que Dieu, il a aussi un calendrier. Et qu'en fait, il a des fêtes particulières pour son peuple, en fonction des saisons. Et chacune de ces fêtes, c'est vraiment une occasion, comme le Shabbat, comme l'a dit David tout à l'heure, de s'arrêter, de méditer, pour en fait revenir à lui et retrouver notre relation et jouir vraiment de sa présence et de sa bonté. Alors, avant de venir sur les fêtes d'automne, je voulais vous expliquer en quoi le fait de s'intéresser aux fêtes juives pouvait nous apporter à nous quelque chose en tant que non-juifs. Donc, les fêtes de l'Éternel, qui sont décrites dans Lévitique 23, c'est vraiment les fêtes de l'Éternel. On les appelle les fêtes juives, mais c'est l'Éternel qui les a établies. Et en fait, elles sont au cœur de l'identité juive. Et en ce moment, les Juifs sont entre la fête des trompettes et la fête de Yom Kippour. Et c'est vraiment des jours pour eux, des jours de repentance. Et pour nous, de s'intéresser aux fêtes dans le temps où eux célèbrent leurs fêtes, c'est aussi une manière pour nous de se faire proche d'eux. Parce qu'on est appelé à prier pour eux et à prier pour que dans ces temps de fête, ils puissent vraiment reconnaître Jésus comme le Messie. Et d'ailleurs, une anecdote par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour Israël, pour Jérusalem. Ça veut dire que partout dans le monde, il y a des chrétiens qui prient pour la paix de Jérusalem et pour le peuple juif. Mais il y a encore d'autres choses qui font que c'est important pour nous de nous intéresser aux fêtes. Un des points les plus importants, c'est qu'en fait, on est greffé sur l'histoire d'Israël et sur les alliances. Et ces alliances, Jésus les a faites avec le peuple d'Israël. Et c'est notre histoire, parce que nous, on a été rajoutés sur ces alliances. Et savoir ce que Dieu a fait avec le peuple juif, c'est important. C'est important aussi parce que ça nous permet de mieux comprendre les relations que l'Éternel veut avec son peuple. Parce que dans l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël, on voit qui il est. Et Dieu ne change pas. Ça nous permet aussi de mieux comprendre Jésus. Parce qu'en fait, toutes les Écritures parlent de Jésus. Quand Jésus a cheminé avec les pèlerins d'Emmaüs après sa résurrection, en fait, il est dit dans la parole qu'en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il a expliqué tout ce qu'il concernait. Et quand il a parlé avec les pèlerins d'Emmaüs, les Écritures, il n'y avait pas, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc en fait, c'est dans l'Ancien Testament qu'il leur parlait de tout ce qu'il concernait. Ça veut dire que les Écritures de l'Ancien Testament nous parlent de Jésus. Et puis, connaître aussi les fêtes, ça nous permet de mieux connaître le contexte dans lequel Jésus a dit certaines choses. Parce que, je veux dire, nous, on prend les paroles du Nouveau Testament, mais il a prononcé certaines paroles à l'occasion de fêtes. Et en général, c'était aussi en lien avec la signification de ces fêtes. Paul dit des fêtes que c'est l'ombre des réalités à venir. Ça veut dire que elles annoncent aussi quelque chose au niveau prophétique et que la réalité, c'est le Christ. Et une chose qui est incroyable, c'est que finalement, toutes les fêtes de printemps avaient non seulement un aspect historique, mais elles ont aussi trouvé un accomplissement en Christ. Les fêtes de printemps, c'est la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Et historiquement, Dieu avait commandé ces fêtes pour que le peuple juif se souvienne qu'il les avait libérés de l'esclavage de l'Égypte. Mais en fait, ça prophétisait aussi une libération beaucoup plus grande, qui est celle que Jésus a accomplie quand lui, il est venu à Pâques pour être cet agneau qui a été immolé pour nous. Et en fait, ces fêtes, elles prophétisaient que Jésus allait venir pour nous libérer de l'esclavage du péché. Et en fait, c'est lui qui a été l'agneau de la Pâque. Et c'est aussi lui qui a été les prémices, c'est-à-dire le premier à ressusciter d'entre les morts. Et pour la fête de la Pentecôte, c'est la même chose. Historiquement, la fête de la Pentecôte, elle célébrait le fait que Moïse avait reçu les lois au Sinaï. Et c'est la fête que Dieu a choisie pour envoyer son Saint-Esprit, parce qu'il est dit dans la parole que le Saint-Esprit, c'est lui qui écrit en fait la loi de Dieu dans nos cœurs. Et si les fêtes du printemps sont symboliques de tout ce que Jésus a fait pendant sa première venue, les fêtes d'automne, elles sont symboliques de ce que lui va faire quand il va revenir une deuxième fois, puisque en fait, on est tous en train d'attendre son retour. Donc je vais vous parler des fêtes d'automne dans lesquelles on se trouve en ce moment. Donc c'est des fêtes qui sont liées entre elles, et dans Lévitique 23, Dieu a commandé qu'elles soient faites au septième mois. Et en fait, ça commence par la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est vraiment un temps où les trompettes résonnent pour appeler le peuple à la repentance. Et ça précède 10 jours qu'on appelle les 10 jours terribles, avant la fête des expiations, parce que c'est un temps où en fait le peuple examine son cœur et permet à Dieu de venir voir les péchés qu'il y a dedans pour que le jour des expiations, il puisse apporter tous ses péchés et qu'en fait il puisse recevoir le pardon de Dieu. Et c'est suivi par la fête des tabernacles qui célèbre en fait le fait que Dieu a demeuré avec eux dans le désert. Il faut se souvenir quand même que Dieu est quelqu'un de saint et que c'était important qu'une fois par année, il y ait vraiment une purification du peuple et du tabernacle pour que lui puisse demeurer au milieu d'eux parce que Dieu reste un Dieu saint. Alors je vais juste vous parler un petit peu de la fête des expiations, donc Yom Kippour. Par rapport au peuple juif, la fête des trompettes, elle a eu lieu dimanche passé. Donc là, on est en plein milieu des 10 jours de repentance. Et en fait, la fête de Yom Kippour va avoir lieu mercredi qui vient. Donc, comme je l'ai dit avant, c'était vraiment le jour le plus saint de l'année, parce que c'était vraiment l'occasion, une fois qu'on avait pris conscience de ses péchés, de pouvoir les confesser, de pouvoir les apporter devant Dieu, et puis de pouvoir recevoir la repentance et le pardon de Dieu pour l'année qui était écoulée. Je voulais juste expliquer le terme d'expiation. C'est un terme qu'on n'utilise pas très souvent, mais enfin qui est très présent quand même dans la Bible. Et en fait, faire l'expiation pour quelqu'un, c'est effacer l'offense faite à Dieu par un autre terme qui est très compliqué aussi, la propitiation, donc il faut déjà réussir à le dire. Mais la propitiation, ça veut dire qu'on va offrir en fait un sacrifice à Dieu pour détourner sa colère du péché et du pécheur. Et dans la tradition juive, alors que le peuple habitait dans le désert, en fait, c'était le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le tabernacle, mais le Saint des Saints, c'est vraiment cette partie que vous voyez sur l'image avec l'arche. Et c'était la partie qui se trouvait derrière le rideau qui s'est déchiré quand Jésus est mort. Et c'était vraiment un endroit très saint, dans le sens que le souverain sacrificateur, il n'avait pas le droit d'y entrer un autre jour de l'année. Et le jour de Yom Kippour, s'il n'avait pas fait le nécessaire pour pouvoir demander pardon pour ses propres péchés et les péchés de sa famille, en fait, il mourait en entrant dans cet endroit-là. Et donc, une fois par année, il venait dans cet endroit pour demander pardon pour ses péchés, pour les péchés de sa famille. Et puis, il venait aussi dans cet endroit pour demander pardon pour les péchés du peuple. Et puis ensuite, il y avait un bouc sur lequel on confessait tous les péchés. Et ce bouc était envoyé dans le désert. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Donc en fait, ce bouc était envoyé dans le désert comme symbole que les péchés du peuple étaient enlevés. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression en français « un bouc émissaire ». Parce qu'en fait, voilà, c'est lui qui emportait le péché du peuple. Alors pourquoi ces choses peuvent nous parler à nous? C'est parce qu'en fait, il y a des textes dans le Nouveau Testament qui parlent de Jésus comme étant notre souverain sacrificateur. Donc si on ne sait pas ce qu'un souverain sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de Jésus quand la Bible nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur. Et dans ces textes, il y a notamment le texte qui se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, les versets 11, 12 et 15. En fait, il est dit de Christ qu'il est venu comme notre souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Ça veut dire que ce qui était fait une fois pour toutes à Yom Kippour par le souverain sacrificateur, Jésus, lui, l'a fait une fois pour toutes. Et ça veut dire aussi que le tabernacle qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était une image d'une réalité qui existe en fait dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans le ciel où il y a réellement le trône de Dieu et où Jésus est entré avec son propre sang pour venir faire l'expiation pour nos péchés, pour demander à Dieu que nous soyons pardonnés, mais aussi pour demander que la faveur de Dieu revienne sur nous et que sa colère soit détournée de nos péchés et de nous en fait. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'approcher du trône de Dieu. On va juste laisser sortir les enfants. Puis on a vu que les fêtes de printemps annonçaient ce que Jésus allait accomplir pendant sa première venue. Et en fait, les fêtes d'automne, elles ont aussi une dimension prophétique. Ça veut dire qu'elles annoncent aussi ce que Jésus va faire quand il va revenir. Et si la première fois Jésus il est venu pour être sacrifié comme cet agneau de la Pâque, pour pouvoir nous sauver, le jour où il va revenir comme un roi, comme le lion de Juda, parce qu'il va revenir régner sur ce qui lui appartient de droit. Et ça, c'est un aspect très important pour nous, c'est de pouvoir aussi, pas seulement connaître Jésus comme notre sauveur, mais connaître Jésus aussi comme notre roi. Donc pour revenir sur ces fêtes, la fête des trompettes qui introduisait ce temps de repentance, ça correspond au temps de tribulation qui sont annoncés notamment dans Apocalypse, mais aussi dans Matthieu. Et en fait, c'est ce temps que Dieu donne pour nous avertir encore avant qu'il revienne et que nous soyons jugés d'une manière définitive. Puis ensuite, la fête des expiations, elle annonce le retour de Jésus. Et puis la fête des tabernacles, elle annonce ce temps de 1000 ans qui est annoncé dans l'Apocalypse aussi, où Jésus va régner sur la terre. Donc si ces fêtes d'automne, elles annoncent ce temps de tribulation, ça me paraissait important de regarder qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ces temps. Parce qu'en fait, c'est les temps dans lesquels on est. Et nous, on a envie de savoir qu'est-ce que nous, on doit vivre dans ces temps. Et en fait, dans Matthieu 24, Jésus, il annonce qu'il va mourir. Oh non, il annonce que le temple va être détruit. Et en fait, ses disciples lui disent, mais quand est-ce que ça va se passer? Et puis, il lui demande, mais quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous montrer que tu es en train de revenir? Et quel sera le signe de la fin du monde? Et je vous invite à la maison, peut-être, si vous avez envie d'en savoir plus, de relire ces textes, parce que c'est des textes assez importants. Donc Matthieu 24 et Matthieu 25. Moi, je vais juste les survoler pour qu'on essaye d'en tirer un enseignement pour nous, pour aujourd'hui. Donc, dans ce texte, Jésus parle des temps de tribulation qui précéderont sa venue. Et en fait, il dit deux choses. parce que les disciples demandent quand est-ce que ça va avoir lieu. Et en fait, il dit, mais personne ne sait le jour ni l'heure, ni le Fils, mais le seul qui le connaît, c'est le Père. Et puis la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il leur faut veiller. Parce qu'en fait, ce jour va venir d'une manière très soudaine, à un moment en fait, où on ne s'y attend pas. Et en fait, il poursuit dans Matthieu 24 par trois paraboles et une déclaration qui annonce un temps de jugement. C'est la parabole du bon et du mauvais serviteur. Ensuite, il y a la parabole des 10 vierges, la parabole des talents. Et finalement, il y a une déclaration sur le jugement des nations. Ça veut dire qu'il annonce que dans ces temps, on doit veiller et qu'il y a des choses à faire pour se préparer à son retour. Et veiller ou se réveiller, ça veut dire travailler en pensant au retour du maître. En fait, c'est les enseignements qu'on peut tirer des paraboles du bon et du mauvais serviteur et de la parabole des talents. Et ça veut dire aussi utiliser sagement les ressources qui nous sont confiées pour gérer ses biens. L'autre élément, c'est d'être prêt à accueillir l'époux, malgré un retour qui peut tarder, mais qui sera soudain et inattendu. Et en fait, dans ces paraboles, il y en a une qui m'interpelle particulièrement, c'est la parabole des 10 vierges. Il faut savoir que toutes ces paraboles ne concernent pas les non-chrétiens, mais concernent vraiment ceux qui appartiennent au Seigneur. Donc elles sont importantes pour nous parce que c'est un enseignement pour l'Église en premier. Donc je vais juste parcourir cette parabole. En fait, dans cette parabole, le royaume est comparé à 10 vierges qui, en fait, le soir des noces, attendent l'époux munis de leurs lampes. Et c'est important parce qu'elles ont toutes leurs lampes au départ, et au départ, toutes leurs lampes fonctionnent. Mais dans ces 5 vierges, dans ces 10 vierges, il y en a 5 qui ont pris une réserve, en fait, avec elles. En attendant l'époux, elles s'endorment toutes. Et au milieu de la nuit, elles entendent crier « Voici l'époux !» Alors elles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les folles, elles réalisent à ce moment-là qu'en fait, elles n'ont plus assez d'huile dans leurs lampes. Et puis elles demandent aux sages « Mais donnez-nous de votre huile !» Et en fait, les sages leur disent « Mais on en a juste assez pour nous, donc il faut que vous alliez en acheter. » Et pendant qu'elles vont en acheter, l'époux revient. Et il entre dans la salle des noces avec les vierges sages. Et en fait, les portes sont refermées. Après, on voit les vierges folles ou insensées qui reviennent et qui disent en fait, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais en fait, le Seigneur leur répond, « En vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et personnellement, j'espère ne pas faire partie des vierges folles. Non, mais c'est vraiment, ça m'interpelle parce que je me dis, mais c'est quand même des avertissements que Jésus nous dit. Et je me dis, mais moi, j'ai envie d'arriver devant le Seigneur et de dire, mais je te connais. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est qu'est-ce que ça veut dire connaître le Seigneur? Parce que c'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, mais je vous connais pas. Pourtant, elles l'attendaient. Et qu'est-ce que ça veut dire être connu de lui? En fait, connaître au sens hébraïque, ça ne veut pas dire connaître quelqu'un intellectuellement. Ça veut pas dire connaître des choses sur quelqu'un, mais ça veut dire connaître vraiment la personne. Ça veut dire avoir une relation intime avec. Ça veut dire être proche. Et ça veut dire que si on veut connaître le Seigneur, on doit s'approcher, mais si on veut être connu de lui, on doit s'approcher aussi de lui. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit qu'en Christ, le royaume et Dieu sont devenus proches. Mais en même temps, on est dans ce temps où la plénitude du royaume n'est pas encore là. Donc on a déjà les prémices, on peut déjà vivre une relation avec Dieu. Et pourtant, il y a encore une certaine distance avant qu'on vive cette plénitude. Et quand on prie le Notre Père, on dit « Mais que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel », ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont là. Et je voulais juste reprendre des paroles de Daniel Bourguet dans un livre qui s'appelle « La repentance, une bonne nouvelle ». D'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il est vraiment excellent comme livre. Et Daniel Bourguet dit, par rapport à ça, « Si Dieu ne s'approche pas plus, c'est pour respecter notre liberté. Et cette limite-là, Dieu ne veut pas la forcer. Il a fait le premier pas et il attend le nôtre pour en faire un second. Donc il y a quand même une certaine distance qui est là, et cette distance, elle est là pour respecter notre liberté. Ça veut dire que nous, on a le choix de rester à une certaine distance de Dieu ou de s'approcher de lui. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que si Dieu s'approche avec une grande pudeur, et s'il ne s'approche pas plus, c'est par égard pour nous, pour ne pas nous protéger, pour nous protéger de la honte, c'est une faute, pour nous protéger de la honte, parce qu'il sait de quoi notre cœur est fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'en fait, ben, c'est clair que quand on vient dans la présence de Dieu, il y a sa lumière qui est là, et forcément qu'il y a aussi l'état de nos cœurs qui apparaît. Et quand on pense au trône de Dieu, c'est vrai qu'on sait qu'on a affaire aussi à quelqu'un qui nous juge et qui est saint et qui connaît tout de nous. Et parfois, ben, c'est nous qui peinons à nous approcher de lui parce que ben, on sait qu'on n'est pas tout à fait en règle avec lui et quelque part, on a peur de ce qui va pouvoir se passer. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a tendance à ne pas s'approcher. Un peu comme Adam et Ève, on se planque. Et puis l'autre raison, en fait, pour lesquelles on ne s'approche pas de Dieu, c'est qu'en fait, on est en train de s'approcher d'un trône. Donc, un trône, ça veut dire que Dieu n'est pas seulement notre sauveur, mais qu'il est notre roi et notre seigneur. Et ça veut dire qu'il attend de nous qu'on lui obéisse et qu'il règne sur nos vies. Donc, ça, c'est l'autre raison pour rester à distance, c'est qu'on a envie de rester en contrôle de nos propres vies. Donc, on va laisser un peu de distance, en fait, avec le trône et avec ce qu'il pourrait nous dire par rapport à ce que nous faisons. Et c'est pour ça que, dans sa grâce, une des premières paroles de Jésus, c'était de dire « Repentez-vous ». Parce qu'en fait, si on veut vivre cette intimité avec Dieu et si on veut s'approcher et le connaître davantage, eh ben c'est important de pouvoir confesser nos péchés et de pouvoir lui laisser faire la lumière sur nos cœurs. Mais en même temps, ben, c'est dit dans la parole que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Parce que lui, il est devant le trône avec son sang et qu'il est là pour être notre défenseur. Et pour reprendre cette image du souverain sacrificateur, elle apparaît dans un autre texte d'Hébreux, c'est à Hébreux 4. Il est dit dans ce texte, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et en fait, dans ce texte, on a vraiment l'image d'un Dieu qui, certes, va regarder l'état de nos cœurs, mais s'il vient faire un diagnostic sur nos cœurs, c'est parce qu'avant toute chose, il veut nous guérir. On est encore dans ce temps de la grâce où pouvoir se repentir, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que non seulement il veut nous pardonner nos péchés, mais il veut nous libérer en fait de ce qui nous maintient dans l'esclavage et ce qui nous empêche vraiment d'entrer dans sa volonté et d'être réellement ses enfants. Psaume 34:19 dit que Dieu est proche des cœurs brisés, qu'il est proche de ceux qui l'invoquent. Et il y a un texte dans Jérémie 3:22 où il est dit qu'il guérit son peuple de ses infidélités. Et je trouve ça magnifique parce qu'il pourrait dire ben, il pardonne les infidélités. Mais le fait de vouloir nous guérir, ça veut dire qu'il y a toute une démarche par rapport à nos cœurs qui veut faire pour pouvoir vraiment nous purifier, pour pouvoir nous aider à l'aimer en fait. Et une chose qui est importante, c'est de se rappeler que l'Éternel a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous pardonner à travers son Fils Jésus. Et qu'il l'a fait vraiment pour nous guérir déjà de toutes les fausses idées qu'on a sur lui, et surtout pour nous rendre capables d'aimer. Finalement, Jésus, il nous a laissé deux commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée, et aimer les autres comme nous-mêmes. Et je crois que si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que parfois on est à des kilomètres de pouvoir vivre ça. C'est pas que... Il y a des péchés, en principe, on devrait déjà les avoir traités dans notre vie, comme le fait de mentir, de voler, de tuer, enfin, des choses comme ça. Mais par rapport à l'état de notre cœur et notre capacité d'aimer Dieu et d'aimer les autres, ben, on se rend compte qu'on a vraiment besoin que Dieu vienne changer nos cœurs et qu'il vienne nous aider par rapport à ça. Et c'est pour ça que la repentance, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est le désir de Dieu de nous aider dans ce domaine. Mais la seule condition à ça, c'est de se repentir. Parce que si on reste à distance de Dieu et qu'on ne le laisse pas venir faire la lumière sur nos cœurs et qu'on ne confesse pas nos péchés, ben quelque part, il se passe rien du tout. Il n'y a pas de transformation. Malgré tout ce que Jésus a fait, cette purification du cœur et ce pardon, on l'obtient qu'en allant vers Dieu et en confessant nos péchés. Donc, c'est important pendant ces fêtes d'automne, parce que je pense que ça correspond. Et c'est une fête. On disait les fêtes, c'est une bonne nouvelle. Mais si on peut obtenir le pardon de Dieu et s'approcher de lui, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de magnifique. Donc, c'est important de se laisser interpeller par les avertissements de Jésus et la sonnerie de la trompette. C'est important d'examiner nos cœurs et de nous laisser connaître par Dieu, de le laisser venir faire la lumière sur nos cœurs et de nous laisser guérir de nos infidélités, parce qu'on est encore dans ce temps de grâce. Donc, ce que je vous propose, il va y avoir maintenant un temps de musique. Je vous laisse un dernier texte qui est dans Joël. Et ce que je vous propose pendant ce temps, c'est de laisser Dieu venir, de laisser l'Esprit vraiment venir examiner vos cœurs et regarder peut-être qu'est-ce qui en ce moment fait que vous êtes à distance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait que vous apportiez à ce trône de grâce ? Parce qu'après, on aura l'occasion à travers la Sainte Cène de venir lui demander pardon et finalement de bénéficier de tout ce que Jésus a fait quand il a traversé ce tabernacle du ciel. Donc je lis juste ce dernier texte avant. C'est dans Joël 2. Il dit « Sonnez du cor en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable, qui pourra le supporter ? Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie.